Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
On va parler de littérature maintenant, plus concrètement, du livre Folle Mélancolie de Thérèse Weig, édition Chandaigne, et la traduction a été faite par Anne-Marie Tourche. Anne-Marie Tourche, avant tout, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Thérèse Weig, bon, il faut dire que c'est un nom d'emprunt.
Oui, exactement. Mmh.
Donc c'est un petit peu à l'instar de ce qu'a fait Elena Ferrante, cette italienne, parce que bon, on ne connaît pas son nom, son véritable nom, mais ça, son œuvre, ça on la connaît parce qu'elle a eu plusieurs prix, elle a déjà publié énormément de livres. D'après ce que, comment est-ce qu'on pourrait présenter finalement l'écriture, entre guillemets, de Thérèse Weig?
Alors Thérèse Weig, comme vous le dites, en fait, elle a écrit en 30 ans une dizaine d'ouvrages, surtout des nouvelles en fait, et à chaque fois, en fait, c'est une femme qui a fait des études, on sait qu'elle a fait des études de littérature, et donc qui lit beaucoup, qui est beaucoup très cultivée, et donc à chaque fois, elle aime mettre différents styles, différents genres littéraires, que ce soit du roman policier, du texte un peu fantastique, ou même des histoires d'amour, et à chaque fois, elle arrive en fait à mettre beaucoup de rebondissements. On suit une certaine histoire, et blam, d'un coup, elle arrive à nous projeter dans un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné.
Oui, parce que bon, on a plein d'exemples, plein de noms. Kitty, danseuse du Wunderwerk, Natacha. Alors Natacha, c'est encore une autre affaire. Avel, bon, c'est encore une autre affaire. Finalement, ce sont des portraits de femmes, mais des femmes les plus disparates possibles, hein, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a des épouses exemplaires, il y a des adolescentes torturées, etc., etc. Mais à chaque fois, c'est un portrait. Mais en même temps, c'est un regard sur la société, mais assez acéré quand même, le regard de Thérèse Weig.
Ah oui, c'est un regard sans concession dans le sens où, à travers ces femmes, ce qui est étonnant chez Thérèse Weig, c'est que les femmes, pour une fois, elles ne sont pas des grandes héroïnes ou des personnages, on va dire, un peu sanctifiés, complètement romanesques. C'est vraiment des femmes comme on peut rencontrer, en fait, dans son quotidien, des femmes qui ont des tragédies, des femmes qui ont... qui vivent des choses assez drôles, qui peuvent être trompées par leur mari, qui peuvent vivre des événements assez éprouvants. Mais à chaque fois, en fait, elles ont une certaine lucidité sur ce qu'elles vivent et ce qu'elles subissent. Et c'est vrai qu'à travers ça aussi, Thérèse Weig dépeint beaucoup de manière assez juste ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement au Portugal, en fait.
Oui, parce que finalement, on dirait que les femmes sont faibles, mais en regardant bien... justement, ces personnages, on dirait que finalement c'est elles qui contrôlent la situation, elles finissent par contrôler les situations, même les plus invraisemblables.
Ah oui, ce sont des femmes fortes, pour le coup, ce sont vraiment... les hommes sont présents dans l'histoire, mais c'est vrai que les vraies héroïnes, celles qui portent vraiment l'histoire et celles qui mènent de bout en bout l'intrigue, ce sont les femmes.
Dans ces nouvelles, il y a de tout, hein, parce que, bon, il y a une enquête policière. À un moment donné, on part sur des récits, bon, un petit peu libertins, mais enfin bon, bien que. Mais elle a, même quand il s'agit de choses sérieuses, de choses graves qui arrivent à ces femmes et à ces hommes, elle a toujours une pointe d'ironie, d'humeur.
Oui, c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est très portugais d'une certaine manière, parce que même dans le drame le plus sombre, on peut penser par exemple à Natacha qui est une sorte de Cendrillon version fait divers, elle arrive toujours à trouver l'expression, la mise en situation qui est un peu parfois ridicule ou parfois complètement comique. Et je pense surtout par exemple à Sœur Saint-Soupir qui est une nouvelle qui se passe pendant la dictature de Salazar. Et c'est une jeune fille un peu rêveuse qui du jour au lendemain, suite à un événement un peu grotesque, va devenir religieuse. Et en fait... ce qui est intéressant, c'est Thérèse Weig, c'est qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre ce qui est de plus sombre, ce que le lecteur va apprécier vraiment dans les aspects policiers, les intrigues, les secrets, et d'un autre côté, vraiment le ridicule ou le comique de la vie, du quotidien.
Il y a quand même un personnage, bon, c'est une jeune fille, qui est pauvre, et que finalement son père la vend. Et elle se retrouve dans un enclos, finalement, avec un monsieur un petit peu bizarre, d'ailleurs, une femme qui est déjà assez âgée, qui est très vieille. elle se trouve dans un enclos, dans un jardin, au mur, et derrière, on entend la vie à Coimbra. Alors, tout ce qui est bon, il y a la Camille des Chevites, il y a tout ça, et à partir de cette nouvelle, bon, c'est un peu la vie de Coimbra, avec bon, ses habitudes, ses bonnes et mauvaises habitudes, cette société un petit peu étriquée. C'est un regard sur la vie quotidienne, en quelque sorte.
C'est vrai que Teresa Vega, à travers ses nouvelles, elle est très, elle crée quand même une ambiance très portugaise. Par exemple, dans cette nouvelle-là, donc il y a voilà, il y a Coimbra qui est en filigrane. Mm-hmm. Surtout, voilà, il y a une critique quand même. C'est vraiment, on sent que c'est une critique de la tradition d'Aquema da Chuitas à travers ce personnage qui va elle le découvrir sans connaître vraiment la tradition universitaire portugaise. Et par exemple aussi dans d'autres nouvelles, elle va remémorer mais de manière assez acerbe. Le régime salazariste, hein, en se rappelant un petit peu cette ambiance, cette, par exemple, pour Danseur Sans Soupir, elle en parle, et fait un peu une critique aussi de la religion au Portugal. Donc d'une certaine manière, c'est très, enfin, on le sent, mais c'est quand même présenté de manière très subtile, et à chaque fois, soit elle utilise l'ironie, soit elle utilise vraiment des éléments de narration qui sont assez croustillants.
Alors, j'ai la nouvelle Natacha. Il y a une mademoiselle Suzanne qui est apprentie, bon, elle fait l'apprentissage, entre guillemets, de journalisme. Alors, dans un journal qui s'appelle le Eco do Mondego, là-dessus, bon, il y a toute une satire. Moi, j'ai pris ça comme une critique à la presse, la façon qu'ils ont de chercher les nouvelles, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Derrière aussi, il y a un regard assez dur par rapport, c'est que c'est la presse au Portugal, surtout la presse régionale.
Oui, là, clairement, elle fait. On sent qu'elle s'attaque vraiment au côté sensationnaliste, en fait, de la presse qui tend de plus en plus maintenant à faire du sensationnel, à créer du scandale, au lieu de vraiment donner juste des informations et informer le public.
Oui, ben ça, c'est un vrai problème. Et comme journaliste, on est confronté à un certain nombre de choses. Bon, je ne veux pas dire du mal de mes confrères, mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Alors, il y a une histoire dans l'histoire du livre, c'est que, bon, Teresa Vega, on ne la connaît pas. Vous avez traduit le livre, et je ne sais pas si vous voulez expliquer ou pas, parce que, bon, un traducteur, il travaille toujours avec l'auteur, mais là, vous avez travaillé, bon, vous avez toujours eu un intermédiaire, c'est vrai?
Oui, dans le sens où Teresa Vega, elle tient beaucoup à son anonymat, et on... Mmh. Respecte son anonymat, c'est vrai qu'on sait très très peu de choses d'elle, même son nom en fait, Teresa Vega, donc c'est pas du tout...
Oui, c'est un pseudonyme, c'est un nom d'emprunt, oui.
Et donc du coup, quand j'ai dû travailler et que j'avais des questions, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas pu passer par l'auteur. C'était, j'ai beaucoup travaillé avec sa maison d'édition au Portugal, qui est Tinta da China, et donc du coup, même pour moi, en fait, sa traductrice, Teresa Vega, en fait, c'est son texte, mais je la connais à travers son texte, mais je ne la connais pas comme personne.
Pour un traducteur, ce n'est pas évident. Alors, c'est vrai que c'est le premier grand projet de traduction littéraire que vous venez de faire.
Oui, c'est le projet. J'avais déjà traduit des contes auparavant, mm-hmm. et un roman jeunesse, mais là, c'est mon premier projet de grande littérature.
Alors, donc, passer du portugais au français, donc il faut dominer les deux langues. Ça, ce n'est pas évident, hein.
Après, donc, moi, je suis de luso-descendante, donc j'ai parlé portugais toute ma vie, et donc j'ai fait des études de langue, et donc ça a été un travail de long terme, et en plus en parallèle, donc j'ai passé par la case édition, et j'ai travaillé à la librairie portugaise pendant de nombreuses années, donc le portugais a toujours été autour de moi, et c'est vrai que grâce à l'aide surtout de mon éditrice, Anima, j'ai pu vraiment mettre à bien ce projet de traduction.
Alors, il faut se mettre un petit peu dans la peau de l'auteur, mais pas trop quand même.
Oui, ça c'est vrai qu'il faut quand même, surtout, ce qui est intéressant avec Teresa Vega, c'est que d'une histoire à l'autre, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui change, parce qu'on passe vraiment voilà, du conte policier au conte libertin, en passant par le conte fantastique. Donc, elle arrive vraiment à troubler un petit peu les codes de la littérature. Mais en même temps, à chaque fois, c'est une langue qui est très, très bien maîtrisée, avec des phrases très bien écrites, un vocabulaire très précis. Et donc, j'ai voulu vraiment être au plus proche de sa langue, de sa fluidité, de sa richesse, mais tout en quand même en gardant une harmonie, en lien avec le français.
Oui, mais là, bon, je ne dis pas que le traducteur y réécrit, mais en quelque sorte, bon, ce n'est pas évident de faire une traduction. Je connais, c'est dans le nom de gens qui ont traduit, notamment Antonio Laurentones, etc., etc. Et ils m'ont toujours dit que c'était un travail assez harassant, fatigant. C'est vrai que c'est dur de traduire une œuvre comme ça.
C'est dur parce que dans le sens où, mine de rien, on ne part pas de rien. En fait, il y a ce travail déjà du portugais qui est présent, et donc il y a cet équilibre à comment retranscrire au mieux ce que l'auteur veut dire, sous son style, mais en même temps tout le temps en fait tout en apportant quelque chose qui va plaire au public français, qui va être compris. Et en même temps, enfin, le traducteur, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un travailleur de l'ombre, parce qu'on essaie de le voir à minima, on peut pas le sentir dans le texte, mais en même temps on essaie vraiment de faire au mieux, d'apporter le sens le plus clair, le plus passionné, pour que le public français puisse apprécier l'auteur à sa juste valeur. Et c'est vrai que
oui.
C'est un travail de longue haleine. Retravailler le texte beaucoup de fois.
D'habitude, on dit ça des musiciens, mais il faut avoir un certain rythme quand même, parce qu'il faut rythmer le texte. C'est-à-dire garder le rythme d'origine, mais lui en souffler un nouveau dans une autre langue.
Oui, le rythme, c'est essentiel, parce que certes, le vocabulaire, la syntaxe, c'est quelque chose qui... C'est le ciment du texte. Alors que le rythme, c'est l'âme, c'est ce qui va permettre en fait au texte de vivre, vraiment de se déployer, parce que sinon sans rythme, un texte, on ne le lit plus, on l'oublie vite. Hein. Alors que le rythme, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental dans une traduction, c'est de trouver le bon rythme et de s'accorder en fait au rythme de l'auteur.
Voilà, et pour notre plaisir quand on lit les livres. Anna Maria Torge, merci. Donc c'est vous qui avez fait la traduction de Folle Mélancolie de Thérèse Weigel. Thérèse Weigel, c'est un nom d'emprunt, un pseudonyme, etc., etc. Donc Folle Mélancolie aux éditions Chandaigne. Merci Anna Torge.
Et merci à vous.
À bientôt, peut-être que pour la prochaine traduction, comme on dit.
Oui, à la prochaine.
Merci
au
bien.
Au revoir.
Passage de niveau. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.